C'est le bande originale, soyez les bienvenus avec les Lights et le Bout de Vie.
Bonjour à tous.
Qui a compris
absolument.
Bonjour. Hubert Algout.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Et nos invités, Noémie Saguignon et Julien Dunant. Merci, mademoiselle. Merci, mesdemoiselles, de venir à ce micro. Dans la première question de politesse, vous allez bien, Juliette?
Très bien.
Ça fait trop longtemps que je vous ai vu.
Ça fait très longtemps.
Vous allez bien, Noémie? Bien. C'est la première fois.
Je vais très bien.
Qu'on se voit dans nos vies professionnelles, puisqu'apparemment, nous nous croisons dans nos vies privées. Mais ça, on n'en parlera pas à la radio. Je vois déjà le regard de Daniel.
Non, mais c'est bien d'amorcer la conversation, en tout cas.
J'ai peur, mon père, que vous n'ayez pas. Vous n'avez pas très bien compris pourquoi Noémie et Juliette sont nos invités.
Comme dit Daniel, vous dites n'importe quoi. Mais Nangui, pour la simple et bonne raison, je sais pourquoi elles viennent, qu'elles se sont trompées de studio en croyant atterrir chez Augustin Trapnard. Augustin Trapnard, qui, on le sait malheureusement, enregistre toutes ses émissions le lundi depuis sa salle de bain, ce qui fait que, mesdemoiselles, vous ne risquez pas de le trouver. Et pour être honnête avec nos invités, Juliette Binoche, bonjour Juliette.
Bonjour.
Et Noémie Saglio. Car ce qu'on prononce le G, bonjour Noémie. Je dois leur dire que juste avant l'émission, vous m'avez dit, Nangui, je vous cite, « Père Albert, tout ce que j'ai vu de ce film, et ça me suffira amplement, c'est son affiche avec deux femmes en cloque. Je renifle là une énième comédie familiale, genre Tanguy à l'envers, où c'est la mère qui est la chieuse déjantée et la fille qui est la chiante sérieuse. Il y en a vraiment marre! Si ça ne tenait qu'à moi, je te les boycotterais ces deux-là, vite fait. Ou plutôt, je leur lirais Télérama et les Inrocks jusqu'à ce qu'elles me supplient à genoux d'arrêter. Oui, Père Albert, il y en a marre. Mais rassurez-vous, comme d'habitude, je ne laisserai rien paraître. Je me montrerai même super intéressé par telle mère, telle fille. Je sais y faire. Alors là, c'est Père Albert qui reprend la parole. Merci. C'est mon café, je vous ai remercié.
Vous en voulez peut-être un, Noémie, c'est ça?
Vous voulez ce café?
Non.
Mon devoir est la charité.
Vous êtes à l'antenne, mon père.
Pour ma part, si je ne partage pas les préventions de Nangui, et si je trouvais très drôle cette comédie, Vous allez comprendre pourquoi. J'avoue avoir eu honte de rire à cette histoire où se trouvent bafouées les valeurs de notre société, comme le rappelait notre candidat le plus raisonnable aux élections présidentielles, se trouvent bafouées les valeurs fondamentales qui font de la famille un des piliers, les piliers de la société. En effet, sans déflorer l'intrigue de ce film, si Avril, la fille, attend un enfant alors qu'elle est en couple, sa maman, Mado, attend elle aussi un enfant alors qu'elle est divorcée, séparée. Ce qui fait de cette boule Davis délurée à la fois une mère, une grand-mère, une belle-mère, une mère célibataire, autrement dit une vieille fille, mère, dont la fille n'accepte point de voir sa mère, mère. Alors, pour me punir d'avoir ri dans ma camionnette bâche-cuir cloutée noire ou mon rimobile qui fait aussi ciné-club, en plus de bureau de vote et permanence pour le comité du Bois de Boulogne de soutien à Dupont-Nicolas Niagnan et salle de shoot, je le rajoute, dans ma camionnette, donc, en guise de mortification, je me suis flagellé, je me suis fouetté, je me suis scarifié le dos et le dos.
Et les cuisses?
Et les cuisses.
Et les pieds?
Et les pieds.
Et Nagui.
En criant à chaque coup, un papa, une maman, bonne émission.
Merci, Pierre-Alain.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Bon, il y a un peu l'idée, mais c'est pas exactement. Vous n'avez pas exactement tout compris.
Ça a l'air bien, en tout cas.
Telle mère,
c'est pourtant très bien.
Telle mère, telle fille, avec Juliette Binoche, réalisée et écrite par Noémie Saglio. Vous êtes rencontrées comment, toutes les deux?
Avec Camille Cotin.
C'est parce que vous êtes là.
Parce que je croyais qu'on avait oublié quand même des personnages très importants dans le film.
Non, je viendrai au casting, mais je parlais de votre présence. Comment, Juliette, avez-vous rencontré Noémie?
Par Skype.
C'est vrai.
Parce que j'étais en Nouvelle-Zélande et Noémie était à Paris et j'ai lu le scénario et on a fait notre première rencontre.
Ah d'accord,
dans le monde moderne.
Après la lecture du scénario.
Oui, c'était pas un chat roulette, quoi. C'était pas. Tu vois,
pardon.
Non. Pas par hasard.
Ah, mais il a pensé Guillermo aussi.
Ouais, mais c'est vieux, chat roulette. Hein.
Oui, c'est vrai.
D'accord.
Tu vois ce que c'est, c'était
génial.
C'est être sur internet et faire des trucs un peu érotiques et tout.
Pas forcément. C'était que ça. On voyait que
tu te connectes sur internet et en fait, tu entres en communication avec quelqu'un qui est en ligne que tu ne connais pas et tu es amené à discuter avec. Alors, ça a pris des dimensions un peu érotiques par la suite.
T'es sûr que c'est bien de dire à l'antenne que tu connais ça et que tu l'as fait?
J'ai pas dit que je l'ai fait. J'ai dit
Une amie m'en a parlé.
Je veux dire, tu vis avec ton temps. tu vois ce que je veux dire.
Ok, très bien.
Et tu peux rencontrer des gens comme ça.
Bah, ton père t'avais des couettes à l'époque.
Quand même. J'ai rencontré personne, mais c'est vrai que je me suis beaucoup amusée.
Alors, bon, toujours est-il qu'on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire ce film. En effet, il y a cette maman extrêmement jeune, dynamique, péchue, qui vit au crochet de sa fille, qui, elle, est beaucoup plus organisée, beaucoup plus raisonnable, et qui presque de materne sa maman, qui est en train de... Et d'ailleurs, je vous trouve absolument sublime, déjà dans la vie, mais dans le film, d'une jeunesse, d'un dynamisme. C'est même troublant au début les quelques premières minutes, on se dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas sa mère. Si, c'est Binoche, c'est pas sa mère. Non, c'est pas sa mère, c'est pas possible.
Bah oui, mais il y a des mères-enfants comme ça.
Hein. Oui, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous l'avez eu à 17 ans dans
l'histoire.
Dans
le film,
on joue beaucoup ça, hein, parce qu'on nous rabâche ça à longueur de journée. Moi, je voulais absolument que la différence d'âge soit extrêmement ténue, parce que je vis avec. Enfin, j'ai vécu ça avec ma mère. C'est encore elle qu'on regarde dans la rue alors qu'elle a 50
ans. Vous avez très peu d'écart, votre maman.
On n'a pas si peu d'écart que ça, mais elle fait plus jeune que moi. C'est-à-dire vraiment alors qu'on a 25 ans d'écart.
D'accord.
Et du coup, j'ai vraiment voulu jouer ça. Non, mais c'est très drôle parce qu'on est très très proches aussi. Mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu jouer ça et que dans tout le film, dès que Camille arrive quelque part, on dit votre sœur, et elle n'en peut plus. Elle dit non, c'est ma mère. Et qu'on le joue. Donc voilà, donc la différence est ténue. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça marche.
Absolument. Parce que surtout, c'est bien joué. En effet, votre fille est Camille Cotin. Vous êtes donc la maman de Camille Cotin et par une succession de quiproquos, c'est très délicat parce que je ne sais pas non plus ce qu'on peut dire et pas dire dans cette histoire. Est-ce qu'on on peut évidemment dire que les deux tombent enceintes, c'est carrément l'affiche, ça, de ce côté-là, il y a pas de débat. Mais ce qui est de jouer la petite fille, de retomber, moi je me suis
l'ado quand même. C'est pas difficile, c'est l'ado.
Non, ouais. Mais je veux dire, la déglingosse, ouais. Ça doit être un vrai kiff. Quoi.
Ah ouais, c'était un vrai kiff, ouais. Ouais. Parce que c'était une façon de faire une pichenette à ma fille. Moi aussi, je peux le faire. Parce que aussi, j'ai pas vécu d'adolescence. Moi, j'ai pas eu ce moment de rébellion. Je me fous de tout, je suis sur le sofa, j'ai rien envie de faire, j'aide pas. Moi, j'ai été élevée à aider, donc et j'aimais ça en plus. Donc, et puis ma mère me disait des choses que j'avais envie de faire. On partageait des choses que j'avais envie de faire. Donc,
j'ai un grand message à votre fille. Ouais.
Gros message. Non, mais ce matin, par exemple.
Voilà.
Ma fille a un souci à l'œil, etc. Elle avait mal au crâne. Mmh. Et ce matin, il y avait bac blanc philo. Mmh. Et elle a dit, j'ai mal au crâne, je peux pas y aller. J'ai dit, écoute, c'est vraiment ton choix, mais à la fois, l'épreuve permet de se dépasser, que tu es capable de, même si. Et je lui ai dit, mais écoute, tu choisis, parce que c'est vraiment...
C'est une bonne valeur, ça, en tout cas. C'est une bonne valeur d'éducation. Non, mais bravo, c'est
oui,
vrai que
le dépassement de soi, c'est quand il y a une épreuve, sinon on sait pas.
Vous n'êtes pas tombé dans le « mais attends ma chérie, je vais te donner un cachet, ça va aller mieux ».
Ça je l'ai fait, mais ça d'accord. C'était avant, mais okay. Bon il a 17 ans, maintenant bon, on passe à autre chose quoi, c'est dans l'éducation, c'est normal. Parce qu'on est près de la porte de sortie, donc il faut quand même avoir, moi je trouve que,
là
j'ai des allergies, et j'ai une sciatique, je viens quand même vous voir.
C'est gentil, ça s'appelle le respect du public et de l'engagement.
Et alors au final...
Oui, et au final il est allé
Non, elle a décidé de rester ici. Elle n'a pas encore pris la porte de sortie.
Ça marche bien.
Bon, okay. Mais elle a dit, ah oui, t'as raison.
Et elle s'est rendormie.
Donc ça, la formation commence à rentrer.
C'est mon choix, salut. Je filme en fait.
Donc, le personnage incarné par Camille Cotin est une... mariée, elle est mariée, donc c'est une dame, mariée, salariée, organisée, c'est elle qui s'occupe de tout. Elle a un mari qui est aussi un tout petit peu...
Un enfant.
Ado, ouais.
On est d'accord, elle en a deux à la maison. Hein.
Elle en a deux. Elle est vraiment... C'est le pater familias, quoi, comme dans le film.
Voilà, c'est ça.
On connaît ça, n'est-ce pas?
Un petit peu.
C'est pour ça que ce personnage est détesté par les garçons et adoré par les filles qui disent je reconnais
enfin
hyper bien
la vérité.
Franchement, c'est quand même... Il y a une scène où Camille Cotin rentre avec les courses, elle est chargée de partout, elle n'en peut plus.
Le mec, il bouge pas ses fesses.
Elle a tout échappé déjà devant la porte, devant le digicode, mais on revoit ces scènes-là de vie, mais du quotidien.
Du quotidien.
On rentre comme ça, il est assis sur la table de la cuisine où il y a encore tous les trucs ouverts, les pots de yaourt. Il a mangé, mais il veut te montrer qu'il a mangé peut-être à la richesse des traces, comme si t'étais un enquêteur. Il fallait que tu reviennes sur les faits du crime, tu vois. Tu te dis, c'est pas possible. Et t'es en train de ranger, t'es en train d'essayer de tout faire rentrer dans ton mini frigo, voilà, et il ne bouge pas. Et ben voilà, et ben il est là.
Tout ça, c'est de la fiction.
Ouais, ouais. Moi, je vois ça, franchement, ça ne m'est jamais arrivé dans le truc, ça n'existe pas dans ma life.
Franchement, Nagui, vous aidez à la maison ou pas?
Évidemment.
D'accord.
Pourquoi?
Non.
T'as des doutes?
Je sais pas ce que votre femme me dit, mais bon, peu importe.
Tu parles quand à ma femme, toi?
Je vais dire laquelle.
Non, mais ça va pas.
Ah, c'est pas moi qui
l'ai.
C'est
pas moi qui l'ai. Quoi?
Tu contamines.
Donc, lorsque cette fille voit, enfin, prend une. Elle prend une décision, tomber enceinte.
Ah, bah elle, c'est vraiment.
On peut le dire. Hein. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la maman.
Non.
Et. C'est l'idée de les faire tomber toutes les deux enceintes, ça vous est venu comment, Noémie? Parce qu'il fallait qu'il y ait un climax dans la situation, quelque chose qui.
Ça m'est venu en premier. Ouais. Après, avec ma co-auteure Agathe Pastorino, après, on a cherché quel personnage on pouvait donner à la mère et la fille pour que ce soit pire. Mais ce qui nous est venu en premier, c'est la mère et la fille enceintes en même temps. Parce qu'on s'est dit que c'était une façon de parler de la famille d'aujourd'hui et de la maternité. C'était l'explosion de la maternité, quoi. Vraiment le truc le plus fou qu'on pouvait trouver. Et en plus, j'avais pas mal de copines dont les belles-mères tombaient enceintes en même temps qu'elles. C'est-à-dire la nouvelle femme du père, qui est un peu plus jeune et qui tombe enceinte en même temps que moi, t'étais là genre, pardon. Excuse-moi, papa, mais à quel niveau, en fait? Et je trouvais ça assez drôle. Et je me suis dit, vraiment, il y a un truc à faire là-dessus, voilà.
Parce qu'on peut pas faire un raccourci avec la fille qui tombe enceinte de son père.
Mais ça va pas. Ouais,
mais que tu es. Le problème, c'est pas que tu le dises, c'est que tu es l'idée. C'est ça le problème.
Je viens du nord de la France, monsieur. Alors j'ai droit à la différence. Voilà.
Et perturbations supplémentaires dans l'histoire. On ne sait pas qui. En tout cas, Camille Cotin, la fille, ne sait pas qui est le père du futur enfant de sa mère.
Voilà.
Et voilà.
Et ça, on le dit pas.
Et non,
vu le regard de Noémie, on le dit pas.
Mais non,
moi, de toute façon, je les laisse tout montrer. À la télé. Ils me disent, on peut mettre cet extrait chat, mais oui, allez, mettez tout ce que vous voulez.
Ah oui, vous êtes à l'américaine, c'est-à-dire dans la bande-annonce, il faut qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait l'immeuble qui explose.
Je pense qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dans la bande-annonce, mais en effet, j'ai remarqué sur les films précédents que les gens rient encore plus quand ils ont déjà vu la vanne dans la bande-annonce.
C'est
donc
vrai.
Je leur donne. Comme ça, quand ils sont dans la salle, ils sont là.
Donc,
ils sont hyper contents de voir comment on y arrive, etc. Donc vraiment, voilà. On peut le dire, c'est elle tombe enceinte de son ex-mari avec qui elle n'a pas accouché.
Est-ce que vous êtes posé la question, pardon Noémie, de vous voir le raconter, je ne sais pas ce qu'en pense Juliette, est-ce que vous êtes posé la question de jouer dans le film?
Non, pas du tout.
Parce que
oui, tout d'un coup, je vous vois bien
je vois bien dans le personnage aussi.
De
Camille. Peu importe, dans un personnage, en tout cas.
De la mère.
Camille, elle a été hyper vexée parce qu'à chaque fois qu'elle disait le pitch du film, on disait « Ah ouais, donc qui joue la fille ?»
C'est violent.
Et ben Juliette Binoche, elle est tellement plus jeune à l'image. En tout cas, ça s'appelle Telle mère, telle fille. Ça fait aussi réfléchir sur les rapports que l'on peut avoir. Déjà, le comportement que l'on peut avoir au quotidien dans sa vie en couple, les rapports que l'on a aussi avec ses parents, de se demander comment on réagirait si, mais il faudrait quand même une proximité d'âge. Mais comment on réagirait si la belle-mère ou si quelqu'un dans la famille vole finalement aussi la vedette. Parce que quelqu'un qui est enceinte, c'est la vedette, tout le monde la regarde, tout le monde s'intéresse à elle, et puis d'un coup là, c'est la mère qui vole la vedette, parce que non seulement elle tombe enceinte, mais en plus elle reste immature enceinte, c'est-à-dire qu'elle veut qu'on s'occupe encore plus d'elle.
Le beurre et l'argent du beurre.
Il y a une espèce de. Moi, j'ai retrouvé aussi le côté délire qu'il y avait dans Malout. C'était dans votre personnage, dans votre manière de jouer. Un peu le côté totalement barré. Je me fous tout, ouais. J'ai pas de repères. Ouais, c'est ça. Ça a l'air de vous faire plaisir de jouer ce genre de personnage.
Ah, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'aller dans des coins différents et puis d'inventer un personnage. Mais j'avoue que c'est vrai que Noémie, elle avait une idée précise de ce que mon personnage devait faire parce qu'elle l'a vécu au jour le jour un petit peu. Et moi, j'avais parfois des idées un petit peu différentes. Et parce que c'est vrai que quand Camille Cotin commence à monter au filet, vraiment, on a envie de monter au filet aussi, quoi, parce que ça permet de se rencontrer dans des hauteurs différentes.
Et on c'est sent vrai le match. On sent le match.
Ouais,
non,
mais c'est jouissif, quoi, bah oui, parce qu'on peut enfin jouer avec quelqu'un qui monte, voilà. Et c'est vrai que Noémie, souvent, elle m'a demandé de redescendre et d'être plus genre cool, ouais, bof, ça va, quoi. L'adolescente. Alors, à la fois,
bien.
C'était frustrant pour moi, mais à la fois, elle avait complètement raison, parce qu'il y a un contraste qui est comique. C'est vraiment le comique de situation.
Et puis, il y a une musique de dingue dans ce film, quand même.
Après qu'elle arrive dans la
Qu'est-ce que j'aime cette musique. Ouais. Signé M.
On a écrit les paroles, hein. C'est mon frère et moi.
Alors on va raconter.
Et c'est sa fille qui chante.
Ah bon, ok, d'accord. Bon, du tout. Ouais. Je veux juste qu'on l'écoute un tout petit peu avant.
Ah bon, non, ben non, mais allez-y.
On va l'écouter d'abord. Je crois qu'il y a quelque chose comme 2-3 jours, j'ai fait un taratata avec Mathieu Chédid. Je lui ai dit, est-ce que tu peux venir avec ta fille, Billy? Je voudrais que vous fassiez cette chanson, Hey. Non, il m'a dit, je veux bien, mais le problème, c'est quand on est tard et qu'elle avait école le lendemain d'envoyer réflexe de papa, il m'a dit, on finit trop tard, elle a 14 ans.
Ouais.
Et il m'a raconté qu'elle a chanté cette en une prise, elle a fait la voix de cette chanson, elle a fait, ouais, quoi, tu veux que je fasse quoi? Ouais,
mais c'est ça le texte. J'ai okay. Un petit film, mais j'ai pas le droit de demander, mais c'est tellement drôle parce que on, vraiment.
Avec une facilité démesurée.
Je la connais très bien, Billy, parce que je la connais depuis qu'elle est toute petite. Genre, j'appelle Mathieu, je lui dis, oui, il nous faut vraiment une chanson. Genre face, un peu pleine de d'amour, etc., très féminine et tout. Et il était avec elle en vacances, je sais plus, à Toussaint. Et il me dit, ah, on va essayer un truc, etc. Et il m'envoie une maquette de ça, mais folle, quoi. Genre faite au Café Rêve, je sais pas, dans le jardin, vraiment en 3 secondes. Parce que la chanson était déjà mais fantastique, mais elle, elle disait nia nia nia.
Ouais, du yaourt, c'est du yaourt, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc il me dit, par contre, il écrit pas du tout en anglais, Mathieu. Donc il me dit, vas-y, balance des paroles. Je dis, ah oui, mais je ne sais pas du tout faire.
Vous n'aviez jamais écrit des paroles de chanson?
Jamais. Bon, c'est pas non plus très recherché hein, quand on regarde, faut pas trop aller.
Mais ça marche.
Les Beatles ont fait Obladi Oblada aussi.
Voilà, voilà. Bon.
On a le droit de faire.
Et donc,
hey.
On a écrit ça avec François-Marie de FM Letty, ouais. et Pierre-Marie, qui sont mes frères. Et on a écrit ça en un déjeuner. Et donc je repasse chez Mathieu le soir. Et Billy était en pyjama, mais vraiment l'ado était là, genre ouais, quoi. Bon, bah, on va enregistrer la chanson. Et donc, ok, elle fait une prise. Après, elle était là. Ok, c'est bon. Mais vraiment.
Vous l'avez giflé?
Après, je suis très très proche de Billy. C'est vraiment une de mes amies, mais ce qui est gênant parce qu'elle a 14 ans, mais bon, je l'adore. Et donc, c'était très mignon.
Ouais. Non, c'est fort. Et toute la musique, il y a des riffs de guitare tout le long du film. Il y a une reprise de Boom aussi.
Ouais.
Charles Trenet, en duo aussi, M et Billy, sa fille, Chédid. Voilà, la musique vient encore plus porter la comédie de Telle mère, telle fille. Ce film, alors. Donner le casting maintenant avant de me faire engueuler avec Camille Cotin, Lambert Wilson, Juliette Binoche, entre autres réalisé par Noémie Saglio et co-écrit Noémie par Noémie, réalisé. Je reprécise aussi quand même que Noémie, vous sortez le dernier film que vous ayez fait, c'était Connasse. C'était un film totalement en caméra cachée. Pourquoi vous me regardez
Non, je regarde la tête des ados.
Ah, mais Connasse, non, mais Connasse, c'est pas un gros mot. Connasse, c'est une série incarnée par Camille Cotin. Mais c'était surtout, je voulais dire, un film en caméra cachée que vous avez fait. Et là, c'est votre premier film.
Non, c'est mon deuxième film.
C'est le deuxième, pardon, c'est vrai. C'est le deuxième, ouais.
C'est la toute première fois.
En direction de comédienne, se retrouver avec Juliette Binoche, c'était un fantasme.
C'était fou, mais ce qui était fou surtout, c'est que bon, moi je suis une énorme fan de Juliette depuis toujours, et quand je lui ai proposé le rôle, je me suis dit, mais je suis tellement gonflée, ça va la tête là, de proposer un rôle à Juliette Binoche, etc. J'ai appelé son agent, François Samuelson, qui était mon premier agent, donc...
Il y avait une petite connexion.
François, je sais, ça va te paraître hyper bizarre.
Vous avez vraiment parlé comme ça, il a dit oui. C'est
hyper gênant.
Ouais, quand même.
Je dis, ça va te paraître hyper bizarre, mais j'ai un film avec Camille Cotin et je pense à Juliette, etc. C'est une comédie. Est-ce que tu penses que. Non, mais j'étais débile mentale. Hein. J'étais comme quand je réserve un resto où j'ai cette voix aussi.
Prenez-le bien, Juliette. Hein. Elle vous a appelé comme elle réserve un resto. Bonjour, on sera trois.
Une voix d'enfant. Non, mais et il m'a dit, écoute, j'essaye, ça peut être amusant pour elle et ça peut lui faire plaisir. Elle a lu en une nuit, Juliette, et c'était fou. Et quand on m'a dit qu'elle voulait bien le faire, j'étais...
Elle en avait marre de venir dans cette émission et qu'on lui dit chaque fois, mais quand est-ce que vous ferez une comédie?
Mais elle en fait, elle en a fait en plus.
Évidemment qu'elle en fait.
Elle en a fait des comédies.
C'était bien.
Mais là, ce que je me suis dit, et je me dis, au moins là, personne ne pourra dire qu'il n'y a pas eu de comédie, voilà, on a envie de se pendre. Et mais voilà, Juliette Binoche a fait...
Tout est filmé, hein, donc...
Non, je sais que c'est pas filmé.
Dommage.
Non, mais en tout cas, Juliette Binoche a fait plein de comédies et moi, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce genre-là à nouveau.
Ah, merci, c'est super gentil. Vous êtes super gentil à chaque fois quand je viens, j'ai vraiment du plaisir. plaisir à revenir. Parce que j'ai tout le temps en face.
Mais parce que oui, parce qu'on voulait pas vous mettre Morin. Très bien, on change rien. Ça sort le 29 mars. On a dit beaucoup de choses, sauf la date de sortie, ce qui est quand même assez essentiel. Le 29 mars, telle mère, telle fille. Et quand on vous a justement annoncé la venue de Noémie Saglio et de Juliette Binoche, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, et quand je pense à vous, Juliette, je pense à beaucoup de choses. Alors, je sais jamais quoi choisir parce que dans la filmographie, il y a tellement d'œuvres qui me plaisent. Là, j'ai choisi Sils Maria. Un film que je vous recommande vraiment à tous, que vous pouvez voir en DVD. Il est d'Olivia Sayas, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps pour Personal Shopper. Et Juliette, vous incarnez une actrice qui a vieilli, qui se voit reprendre non pas un rôle, mais une pièce dans laquelle votre rôle a changé. Vous n'êtes plus la fille, devenez la mère d'une certaine façon. Un extrait.
An interview with an Italian magazine targeting active women seduction after 40.
No.
But it's the cover.
No.
Klaus Kiserzio. He's a great director. Just hear him out.
I played Sigrid in Maluia Snake when I was 18. For me, it was more than role.
Sils Maria, Olivia Sayas, un film vraiment magnifique. Vous parliez tout à l'heure de partenaires. On parlait de Camille Cotin dans le match sur la comédie. Là,
c'était monté au filet.
Monté au filet. Là, face à vous, vous avez une autre jeune actrice pour monter au filet. Comment ça se passe avec Kristen Stewart?
Merveilleusement bien. Ouais. Mais on était tout le temps ensemble pendant les 2 mois et demi de tournage. Et on a traversé des pays puisqu'on était en Allemagne, en Suisse, en Italie. Et on s'est super bien entendu. C'est une vraie artiste, Kristen. On va la découvrir au fur et à mesure du temps, mais elle écrit la poésie. Elle gratte un peu sa guitare, elle chante. Elle a envie de mettre en scène, elle s'est mise à la peinture. Enfin, elle a vraiment ce désir de s'exprimer dans toutes les possibilités du monde. Et c'est vrai qu'elle est arrivée, elle est née avec Twilight, qui était une espèce d'ouragan terrible pour elle, où elle a vécu vraiment l'enfer et le paradis en même temps, parce que les gens étaient super méchants, mais à la fois complètement fascinés par elle et cette série-là. Et ensuite, elle était cinéphile, parce que Robert Pattinson, son conjoint de l'époque, était aussi très cinéphile. Oui. Et c'est pour ça qu'elle connaissait mes films. Moi, j'étais hyper étonnée, Les Amants du Pont Neuf et d'autres. Et donc, l'envie pour elle aussi de jouer dans le film d'Olivier, c'est qu'elle connaissait ses films, elle connaissait mes films et qu'elle avait envie d'aller dans des zones différentes. Peut-être moins populaire,
Du cinéma d'auteur, voilà. Ce qui est une façon aussi de changer, de faire évoluer son image. C'est vrai qu'elle, la pauvre, j'ai envie de dire, elle bénéficie pas toujours d'un capital sympathie et c'est assez inexplicable. Soit elle est très aimée, soit elle est totalement rejetée parce qu'elle vient de Twilight.
Et en fait, Sils Maria, ça lui a donné une sorte de passeport pour d'autres films et elle a été reconnue aux États-Unis d'abord parce qu'elle a eu le prix de la critique à New York et ça lui a donné un cachet. Et ça m'a fait plaisir pour elle parce que c'était comme si tout d'un coup on la prenait au sérieux, alors que c'est idiot, parce qu'avant aussi elle s'est toujours vraiment impliquée, elle a toujours vécu dans le cinéma, elle a commencé très très jeune. Sa mère était script.
C'est le défaut quoi, du trop gros succès trop rapidement ou des gens crient
Il y avait une telle passion pour cette série de jeunes et d'adulation parce que souvent les jeunes ont ce désir comme ça d'avoir un héros, une héroïne sur lequel se rattacher, et ça a été son cas. Et comme la série, quand même, il y a des choses assez noires, des traversées. Enfin, donc on la prenait à la fois pour un diable et pour un ange. Et son visage étant captivant tellement la lumière et elle a une intériorité forte.
Le personnage déteignit sur son image d'actrice, vous voulez dire?
Oui, je pense. Ouais. Je pense. Et à la fois, elle a une espèce de. Bon, je vais vous raconter une histoire quand même parce que c'est quand même très très drôle. Excusez-moi, mais.
Non, dites.
Bon, vous avez toutes ces histoires du metteur en scène avec qui elle a tourné Blanche-Neige.
Ouais.
Voilà. Et bon, j'ai donc fait un film avec le metteur en scène de Blanche-Neige, avec lequel elle a eu une histoire.
Une aventure.
Et bon, ça a été tout un pataquès autour. Et. Et en fait, là, j'ai tourné un... Bah, excusez-moi, hein, c'est des histoires. C'est... J'ai tourné avec Claire Denis dernièrement.
Si vous saviez à quel point on adore.
Oui. On est tous comme... En fait, vous êtes tous des voici.
Non, pas du tout. Non. On est France Inter.
Non, je vous raconte ça parce que c'est, plus... c'est quand même très, très drôle. Et,
Claire Denis,
j'étais dans, sur le tournage de Claire Denis. Et il y a Robert Pattinson qui dit, bon, viens dire bonjour à Claire parce qu'ils vont, ils doivent faire un film ensemble de science-fiction. Et comme j'avais tourné avec, Pattinson, donc on se dit bonjour, etc. Et puis il me dit, bah, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Bah, je lui dis, bah, écoute, j'ai fait une comédie française avec Noémie Saglio. Et puis j'ai fait ce film de science-fiction avec Rupert Sanders. Il m'a dit, qui? Je dis, bah, Rupert Sanders, c'est un metteur en scène anglais. il me dit, non, je vois pas du tout qui c'est. Et je lui dis, bah, tu sais, il a fait, attends, Blanche-Neige, là. Et là, on s'est regardé. Tout d'un coup, on a éclaté de rire. Parce qu'il avait carrément zappé.
Et moi aussi, d'ailleurs. Et moi aussi, surtout, c'est ça.
Complètement zappé toute l'histoire. Mais on a éclaté de rire. C'est quand même fou que deux ou trois ans après, tout d'un coup, on puisse s'en éclater de rire d'une situation qui avait été dramatique, horrible.
Bon, mais maintenant, je crois qu'il est bien.
Il est, ouais, absolument. Lui, ouais. Il est bien dans sa vie. Et voilà, quoi. Et Rupert aussi, bon bah ça, il a quand même divorcé avec sa femme, et puis il est plein de, ça a été pas facile pour lui, mais enfin bon, je vous raconte cette petite anecdote parce que comme ça, pour vous dire que finalement que tout va bien, le temps prend le dessus,
Robert va bien.
Je suis venu vous dire que Robert va bien. Bonne journée. Au revoir.
Et pour revenir à Sils Maria et à Olivia Sayas.
Non, parce que dans Sils Maria, il s'agit de ça. Le thème du film, c'est ça. C'est des histoires de, parce que la jeune actrice est plus prise dans des histoires de voici,
de célébrité, de pipolerie. Voilà. Et c'est pour ça que je trouvais que le parallèle était intéressant avec vos personnages et vos figures aussi dans la vraie vie. Et est-ce qu'il y aura, vous parliez d'Olivia Sayas, un autre projet bientôt avec lui?
Oui, alors c'est possible qu'il écrive la suite de Sils Maria, mais on n'en est pas encore là, mais il est en train de mijoter dans sa tête.
Ça vous ferait plaisir en tout cas.
Ah ben carrément.
De retravailler avec lui.
Ouais, d'imaginer aussi la suite de l'histoire, ouais. C'est formidable.
Mais sinon, Robert?
Bah écoutez, on est en train d'en parler.
Et quand je pense à vous, Noémie, eh bien je vous entends chanter.
Si maman si, si maman si.
Qu'est-ce que c'est?
Maman si tu voyais ma vie.
Je suis scénariste et un peu réalisatrice. J'ai toujours scénariste avant parce que je me dis je suis quand même plus ça. Parce que moi il y a 3 ans je voulais quand même être chanteuse, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Je voulais passer à la nouvelle star.
C'est vrai.
Préparer toute ma chanson.
C'est un extrait d'une interview que vous avez donnée il y a 2 ans.
Gênant. Des potes qui ont une marque de fringues quand même. Hein. Donc vraiment, le truc qui n'est pas censé sortir.
Ben voilà, c'est sorti. Comment vous dire Non, je voulais pas vous mettre mal à l'aise, Noémie.
Non, c'est mignon, ça va.
C'est vrai.
Qu'en est-il de cette carrière de chanteuse?
Bon, vous avez, Monsieur Taratata quand même. Quand j'ai eu mon enfant, ouais, quand j'ai eu ma fille. Il y a 8 ans, je me suis dit je peux plus laisser cette petite bête pour travailler dans la prod, ce qui était un peu mon cas à l'époque. J'écrivais des scénarios la nuit, mais il se passait pas grand chose et j'avais l'impression que je chantais hyper bien.
Ah bah tous, dans la salle de bain, on est tous des.
Vous avez retrouvé votre lucidité.
Vous avez vu depuis, j'ai fait 3 films.
Soyez généreux, mon père.
Non, mais faut y croire.
Moi j'ai trouvé ça très bien.
Moi j'ai trouvé ça bien aussi.
Bande de faux cul.
Mais non, c'est pas ça, mais si, il y a une véritable envie après tout.
J'y reviendrai après.
Ou pas, Noémie. Non, c'est bien le cinéma, je t'assure.
Ce qui est tellement drôle, c'est que je fais tellement chier Mathieu à chaque fois pour chanter. J'ai essayé de chanter sur tout le film. Et à chaque fois, il a oui. Non.
Il faut dire que Mathieu est sûrement le garçon le plus gentil au monde. Et que son premier réflexe n'est pas de dire non tout de suite. Mais c'est plutôt oui, il faut voir comment on peut le faire. Mais... Et puis après, ça se fait pas.
Même gentil, il a une bonne oreille quand même.
Et au-delà de la chanson, Noémie, est-ce que vous parvenez à présent à dire en premier que vous êtes réalisatrice? Pour vous définir. C'est intéressant de l'ordre dans lequel vous présentez les choses.
Ouais, je crois que j'y arrive maintenant. Mais c'était il y a longtemps, hein, ce truc.
Il y a 2 ans.
C'était avant Connasse et avant toute première fois.
Non, c'était la semaine dernière.
j'arrive à dire, ouais, non, je pense que je suis réalisatrice et scénariste.
Dans le film qui sortira le 29 mars, il y a donc Juliette Binoche qui est notre invitée aux côtés de Noémie Saglio qui signe ce film. Et il y a également Camille Cotin, Lambert Wilson, Catherine Jacob, Jean-Luc Bidault, Michael Dichter, Stéphie Selma, Philippe Vieux, Olivia Cotte, Charlie Dupont et Hugues Jourdain, sans oublier le chien.
Le chien.
Jean-Poil dans le film. Tout ça sort un nom de chien comme ça, Jean-Poil.
C'est une copine qui avait son chien qui s'appelait comme ça. On a adoré, on a trouvé ça fantastique.
Oui, moi j'adore les chiens qui ont des noms genre Luc et ou des trucs comme
c'est
ça.
Génial.
Oui,
c'est Luc, pas c'est un très bon nom de chien.
C'est pas Jean-Paul, c'est Jean-Poil.
Ah, Jean-Poil. Ah non, c'est une blague.
Ah ouais, c'est une vanne.
Oh, c'est une vanne, ouais. C'est super vanne. Je l'ai même pas inventé.
Telle mère, telle fille, le 29 mars, donc au cinéma. Voici l'humeur de Guillermo. Oui, c'est vanne.
Allez,
Guillermo, allez.
Bonjour les amis.
Non.
Bonjour. Salut, bonjour.
Alors certains parmi vous le savent peut-être, mais globalement j'ai une vie de chambranle de porte. Quand il m'arrive un truc de notable, au mieux c'est trois bons numéros au Keno. Le reste du mois j'attends la mort. Mais pour une fois, cette semaine j'ai fait quelque chose qui méritait d'être vécu. Ah ouais, quoi, t'as croisé un dealer, il t'a fait une ristourne, t'as couché avec un mannequin, vous êtes réveillé dans un zoo et t'as souloyé un flic pour aller présenter N'oubliez pas les paroles. Non Nagui. Vous êtes mignon, un peu autocentré, mais mignon. Non. Mardi soir les amis, à Bruxelles. Roulement de tambour, j'ai assisté au meeting de Benoît Hamon. Hey, boum, prends ça, Massimo Gardia. C'est qui le roi de la jet set maintenant? Et voilà. C'est moi. Le meeting d'Hamon, c'est de loin le truc le plus people qui me soit arrivé depuis la fois où j'avais croisé un type qui ressemblait à des musclés sur la ligne 7. Et vraiment, Hamon à Bruxelles, bien sûr, j'y suis allé, quoi. Et dans ma tête, je me disais, s'il devient président, après, il sera complètement inaccessible. La seule manière que j'aurais de lui serrer la main s'il est à l'Elysée, c'est de me naturaliser français, d'apprendre les rudiments du handball. Et de gagner les Jeux Olympiques avec les experts, quoi. Ce qui paraît peu crédible quand on connaît mon corps et ses nombreux problèmes de motricité. Mais là, mardi soir, j'étais sûr que je pourrais lui parler, quoi. Vraiment, j'étais persuadé qu'il serait un peu seul à une table, comme ça. Tu vois, comme quand tu es au salon du livre pour dédicacer un précis de comptabilité. Et que t'es obligé de faire semblant de recevoir des textos pour pas t'évanouir de tristesse. Et c'est vrai, chez nous, ça reste un politicien de niche. Ah bon, quand j'ai demandé à un de mes potes de m'accompagner voir Benoît Hamon, il m'a dit, je connais pas, c'est quoi, c'est un humoriste? Tu confonds avec, je vous laisse compléter cette vanne en fonction de vos affinités idéologiques. Mais j'arrive quand même à le convaincre de venir. Et donc on arrive à la salle de la Madeleine, tranquillou comme ça, mais c'était blindé, massacre, quoi. 2000 personnes, comme quoi voilà, à Bruxelles, il n'y a pas que des Français qui fuient l'ISF. Vous envoyez aussi vos pauvres partout, en fait. La France, c'est la nouvelle Pologne. Vraiment. Prends ça, Marine Le Pen. Tu feras moins l'arrogante quand on chassera tes arrière-petits-neveux. Mais je veux dire, c'était tellement full qu'ils ont diffusé le meeting dans la boîte de nuit d'à côté, en fait. Et donc je suis arrivé à la boîte et tout à l'entrée et le mec de la sécurité demande à mon pote d'enlever son bonnet. Et il ajoute, et vous le remettez pas quand vous êtes à l'intérieur, hein, ok? Genre, à moi, on me la fait pas, quoi. Les meetings, je les ai tous faits, Chabandelmas, Gilles de Robien, le père de Bray, j'ai même fait Guy Dru. Alors, je les connais, les mecs qui font semblant d'enlever leur bonnet à l'entrée et qui les remettent à l'intérieur, pas de sac, kiki. Bon, donc, comme ça, vous savez, pour le 22 avril, Benoît Hamon, il aime pas les bonnets. Voilà. On va savoir, peut-être un bonnet qui a mal tourné. Enfin, je sais pas. Bref, donc, on entre dans la boîte, le You, où, par parenthèse, je dois avoir bu l'équivalent d'un mer baltique en vodka. J'ai encore mon vomi incrusté sur deux murs là-bas. Non, mais grosse Madeleine de Proust. Et donc, mais c'est tellement plein qu'on est obligé de rester debout et j'arrive même pas à voir l'écran géant, en fait. Donc là, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas ramené ma chaise pliante comme quand je vais au concert de Maxime Le Forestier? Là, évidemment, je pense alcool, anesthésie locale, échec global de ma vie. Mais je me dis, heureusement que je suis avec mon pote, quoi. Sauf que là, il y a Thomas Piketty qui lâche. Je relisais encore dans le Thalys le discours prononcé par Joschka Fischer le 12 mai 2000. Là, il y a mon pote qui me regarde et fait, moi, je vais y aller, par contre. Et il se barre. Et je reste tout seul, et je retrouve, enfin, à 20h25, t'as le chauffeur de salle qui fait, il arrive! Le candidat pour un avenir désirable, le candidat pour une Europe avec un vrai projet, le candidat qui va faire battre le cœur de la France, le candidat pour un vide. Là, tu dis, ou si tu l'arrêtes pas, il va enchaîner avec le candidat qui va toiletter vos animaux de compagnie, le candidat qui joue à ni oui ni non comme personne, le candidat qui bat les œufs en neige sans batteur électrique. Mais t'as peur de l'escalade, évidemment. Mais du coup, c'est vraiment bien, en fait. En plus, ce qu'il y a à Mont, c'est bien, j'entends, c'est bien ce qu'il dit. C'est intelligent, c'est humain et tout, mais voilà, après deux heures, moi je suis debout, je vois pas ce qui se passe. Donc je me dis, je sais que je devrais rester jusqu'à la fin. Déontologiquement, je devrais rester, mais là, je me dis, je commence à me dire pourquoi je fais les chroniques en fait. À quoi ça sert? Nagui, je le connais à peine. Daniel Morin, je le croise en rue, je change de trottoir. Dans 200 ans, qui se rappellera en plus de cette chronique, quoi? Donc voilà, je me suis barré, mais c'était quand même une cool expérience.
Allez, merci, Guiz. En Belgique, hein.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Simplement une petite précision pour ceux qui voudraient faire leur devoir civique. L'élection, c'est le 23.
C'est pas le 22 ?
Non, c'est pas le 22. Le 22, c'est un samedi. Ça, c'est quand tu vas en boîte et que tu vas te manger à Bruxelles. Mais nous, on doit aller voter le 23
c'est
avril
la dernière
prochain.
Fois, le 22 avril,
c'est toutes les plus plates.
C'est la fois précédente.
Ah oui, c'est un papier d'il y a 5 ans. En fait, tu nous ressors, il va vite changer de nom.
C'est Benoît Hamon, l'écologie.
C'est ça. Telle mère, telle fille est au cinéma le 29 mars. On va en parler à nouveau, notamment avec le prisme de quelqu'un qui a écrit un livre. sur les parents immatures et les enfants adultes. Et la première réflexion faite par Noémie, c'est « Ah, j'aurais peut-être aimé le lire, ce livre. » Je vais vous l'offrir, mais d'abord, on va en parler avec elle dans quelques instants. Mais la bande originale de Juliette Binoche et Noémie Saglio, avec quelques dates comme ça que nous avons prises dans vos carrières, et mises en musique, par exemple, 1982, Juliette, vous écoutiez... Christophe Cross, un peu de respect. T'as pas juste envie d'être dans une voiture cabriolée, de rouler avec les cheveux au vent en écoutant ça,
toi ? On a pas tous les moyens de...
D'avoir quoi ? Tu enlèves le toit, tu prends une scie sauteuse, tu prends une tronçonneuse, tu te débrouilles.
En fauteuil roulant.
Les cheveux au vent, ça porte pas bonheur.
Christophe Cross, Ride Like the Wind. Quand vous écoutez cette musique, vous vous voyez où ? En faisant quoi ?
Un peu dans la galère quand même, des castings, d'essayer de survivre, de trouver du boulot, de vivre mon rêve, voilà.
Et c'est votre premier rôle 82 à ce moment-là.
Alors,
Liberty Belle, non ?
J'avais quoi, 18 ans, donc je sortais quand même du lycée, bac en poche, et puis...
Pascal Canet.
Ouais, Pascal Canet, et puis je suis partie en tournée avec Jacques Mauclair et Nita Klein sur les routes de la France, et Suisse et Belgique.
C'était quoi l'urgence pour vous d'être comédienne ?
Gagner ma vie parce que j'avais rien.
Non mais d'accord, mais on peut gagner sa vie en faisant des pizzas, vendant des fringues, en faisant...
caissière au BHV, j'ai bossé, voilà.
L'urgence d'incarner ou de jouer un personnage ? Ça vient d'un prof de français qui, à l'école, vous a fait jouer ? Ça vient de lecture ?
Oui, ma maman était prof de français et j'ai fait du théâtre avec elle. Après, elle a lâché l'enseignement et puis elle est retournée à ses amours d'antan, c'est-à-dire la mise en scène et jouer. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait du théâtre, en fait. Mais j'adorais jouer parce que c'était une bouée de secours.
Mais donc c'est surtout maman, quoi. C'est-à-dire que l'idée...
Et mon père, parce que mon père partait en tournée. Il nous emmenait l'été... en tournée avec sa troupe de théâtre, donc j'ai toujours baigné dans le théâtre. Mais le théâtre, c'était mon rêve, c'est pas du tout le cinéma. Et c'est à 18 ans que ça a un peu reviré parce que j'ai rencontré Dominique Besnéard et qu'il m'a dit...
Et ça a basculé, oui.
Et ça a basculé, voilà. J'ai eu 2 ans de galère quand même, hein, de chercher, d'essayer de croiser les doigts et d'y aller.
Est-ce que c'est le même métier, actrice au théâtre et au cinéma ?
C'est un métier de passion de toutes les façons, parce que c'est difficile. Il n'y a pas de route tracée. On est soi-même avec sa foi. C'est vraiment dans le personnage de Nina, dans Tchekhov, c'est vraiment ça, avoir la foi et continuer malgré tout. Mais à la fois l'épreuve rend plus fort, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par
qu'est-ce
rapport
que vous avez dit
à... voilà, c'est vraiment l'épreuve qui nous met en face de nous-mêmes et nous permet de grandir et d'être à la fois, d'avoir l'humilité et grâce à cette épreuve de sentir une facilité autre.
Mais la technique est-elle la même ?
Non, c'est une histoire de volume. En fait, au théâtre, la présence doit être là comme au cinéma, mais il y a une sorte de projection dans un sens, mais fondamentalement, ça passe par le corps. Donc, c'est vraiment un alliage entre l'esprit et le corps. Donc, pour moi, c'est la même chose, sauf que ça se... Et puis, parce qu'au théâtre, le spectateur reçoit l'information directement. Mm-hmm. Ça ne passe pas par un filtre,
un prisme
où déjà, on perd quelque chose de l'information directe d'humain à humain. Et c'est là la grande différence, en fait. Mm-hmm. Quand on est marqué au théâtre,
Au théâtre, on met son objectif quand on est dans la salle où on souhaite le faire. Si on veut regarder le comédien qui est en écoute et pas celui qui est en train, justement, de porter.
Et puis on fait soi-même aussi les gros plans, soi-même.
Alors qu'au cinéma, on sait si on est dans le cadre ou pas.
Le spectateur est le réalisateur au théâtre. C'est lui qui regarde où il veut. C'est lui
qui choisit. Oui, il y a une liberté.
C'est lui qui réalise.
C'est lui qui monte en tout cas.
Ouais. Mais ça, c'est génial. On peut passer une pièce et regarder qu'une seule chose si on veut et ignorer tout le reste. Ça change le sens d'un texte.
T'es sûr de ne pas être coupé au montage au théâtre. C'est ça. Là, il faut y aller. À ce moment-là, Noémie, en 1982...
Vous arrivez
en moonwalk.
J'arrive à l'envers.
En moonwalk, c'est ça, le moonwalk. Vous êtes né un 1er mars, j'ai presque envie encore de vous souhaiter un bon anniversaire.
Merci. On est poissons toutes les deux, on en parle beaucoup. Oui. On est très proches.
Ah, ça joue ça ?
Vachement. Poisson, oui, poisson, c'est un signe qui joue.
Ah, genre, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Je crois pas à l'horoscope, mais.
Je crois pas au taureau.
Poisson, oui. Mais.
Pourtant, on s'entend très bien avec les taureaux, nous, poissons.
Ouais, mais. Pas toujours.
Un cursus scolaire impressionnant, parce que il y a eu après l'école Hippocagne, Sciences Po, vous avez voulu devenir comédienne. Comment on part sur Hippocagne? Oui, c'est une chanteuse. Mais ça, j'avais fait signe de j'en parlerai plus. Comment on fait Hippocagne, Sciences Po, et d'un coup on se dit, ah ben non, je veux sortir d'un cursus tout tracé, parce que là vous auriez pu être, je sais pas, enseignante, journaliste, femme politique.
Je voulais. Enfin, mes parents voulaient que je sois présidente. Et j'ai pas voulu passer l'ENA. J'ai un peu arrêté le truc à
mais
ce moment-là.
Vous voulez vous engager en tout cas.
Je préférais faire connasse. Non.
Mais les deux peuvent aller ensemble.
C'est pas incompatible.
C'est vrai. On s'en rend compte de plus en plus.
Tous les jours.
Non, en sortant de Sciences Po, j'avais fait ma thèse de fin d'études sur les derniers rituels sociologiques. J'étais très passionnée par la socio.
Déjà dans la déconne. Hein.
Déjà dans la déconne. Et donc j'avais fait sur les rallyes mondains comme dernier rituel des sociétés occidentales. Donc en comparant ça au rituel où on envoie les enfants en Afrique dans la forêt, etc.
Rite de passage, quoi.
Rite de passage. Et je disais que c'était derniers rituels.
En Afrique, c'est tu pars pendant un an, tu te débrouilles pendant un an et tu reviendras.
Les rallyes mondains, ça dure 4 ans, je crois. Je me souviens bien le truc.
Ouais, enfin, c'est mondain.
Donc du coup, j'ai passé ma vie à aller traîner ma patte. Du tout rallye, mais dans les rallyes. et pendant un an. Et après, Arte m'a téléphoné en me disant on voudrait adapter ce mémoire
faire un doc. Mmh.
Et donc, j'ai fait le doc et j'étais première assistante, mais j'étais dans le doc. C'est-à-dire qu'ils suivaient la façon dont j'avais fait mon mémoire et on refaisait tout, en gros.
C'était un carnet.
Mmh. Ouais, c'était un carnet. Et du coup, en faisant ça, je me suis dit oh, très marrant. Et puis, je faisais des cours de théâtre, en effet, et j'étais vraiment nulle. Et j'arrivais à avoir aucun casting, sauf un, je crois. J'ai un rôle dans un truc vraiment pourri. J'ai piqué à Léa, c'est doux. J'étais assez contente. C'est vrai.
Et comment on se rend compte, pardon, comment on se rend compte qu'on est nul?
La petite victoire.
À quel moment on se rend compte qu'on est nul? Ou pas fait pour ça?
Parce que donc je vois le truc sortir qui s'appelle Roséval, une série TF1. Et en fait, ils m'ont doublé intégralement. Là, on se rend compte qu'on est bof quand même. Et ouais,
alors,
c'est
il s'est passé ici à ce micro et on a raconté cette histoire avec Guillaume de Tonquédec. Le premier film dans lequel il a joué, il a découvert en allant au cinéma qu'il avait été doublé par la réalisatrice. Donc, une humiliation totale pour lui. Ça n'a pas empêché la carrière qu'il a faite, que ce soit au théâtre ou au cinéma.
Mais moi, ce que j'aimais, c'était mettre en scène mes petits trucs. C'est-à-dire que j'arrivais toujours au cours de théâtre avec un super.
Des idées de mise en scène.
Plateau, j'adorais diriger l'autre et dire aussi ce qui n'allait pas chez les autres, mais moi ça n'allait pas du tout. Et donc au bout d'un moment je me suis dit ok, bon, tu vas peut-être faire autre chose, et j'ai passé le concours d'une école de cinéma qui est un peu la FEMIS de Londres, qui s'appelle National Film School, qui est l'école nationale là-bas.
Vous êtes bilingue?
Ouais. Et j'ai fait cette école. J'ai été prise, donc c'était génial. Et là, on a tout ce qu'on veut pendant.
C'est pour ça que dans Connasse, il fallait qu'il y ait aussi des plans en Angleterre.
Ouais, j'ai vécu à Londres du coup pendant 2 ans.
Vous avez déjà repéré les lieux, quoi, pour ça.
J'avais bien repéré, ouais. J'ai fait pour aller en prison. Avec un Américain qui habitait Londres et j'ai eu mon premier enfant là-bas.
D'accord. Nous allons parler avec Gisèle Arus-Revilly. Merci de venir à ce micro. Gisèle, approchez-vous bien du micro parce que considérez-le comme un téléphone en termes de proximité. Oui. Vous signez donc Parents Immatures. Oui. Parents Immatures et Enfants Adultes. Il y a une quinzaine d'années que vous avez fait ce livre.
Non, moins, une dizaine, je dirais peut-être.
Je crois que c'est en 2001.
Je sais plus.
D'accord, non, écoutez, la date n'a pas d'importance, l'important c'est ce qui est à l'intérieur.
C'est vous qui l'avez écrit, non.
Oui, d'accord, okay, très bien.
C'était en 2001, je vous assure.
Ah, oui.
Mais non, mais c'est pas grave.
Le temps passe vite.
Évidemment, quand on voit le titre, et après avoir vu le film Telle mère, telle fille, que je pense vous avez
que
pu le voir aussi en projection,
vous
avez donc dans ce livre, Les parents immatures, enfants adultes, ma première question, est-ce que ça va forcément ensemble? Est-ce que dès l'instant où un enfant est adulte, le parent est immature, et inversement, si un parent n'assume pas son rôle de père ou de mère?
Au contraire, dès l'instant où le parent est immature, est-ce que l'enfant est adulte? Alors, si l'enfant est adulte, ça irait un peu, peut-être, ça peut aller. Si l'enfant est aussi mature que les parents, des fois, ça va un petit peu à la cata, quand même.
Et ça, est-ce que ça arrive souvent, ce genre de situation, ou est-ce que c'est vraiment des cas particuliers, rarissimes?
Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit des cas très particuliers. Je crois que ça arrive souvent, je crois, et peut-être de plus en plus souvent.
C'est de l'après 68, ce genre de résonance-là, les parents immatures, ça tourne autour de la génération.
C'est d'après 68 qu'on ose le dire.
Et à quoi on reconnaît un parent immature? C'est parce que ça peut être beaucoup de choses, j'imagine.
La concurrence avec la fille, en étant par exemple enceinte. Ça, je connais pas ce cas-là, mais c'est très drôle dans le film. Mais si vous voulez, par exemple, par des histoires vestimentaires, par des histoires de copinage, par le fait que les parents peuvent, la mère peut piquer les copines de sa fille, les fringues de sa fille. Enfin, il y a toutes sortes de choses.
C'est ce qui est pire pour une ado que sa mère soit une copine.
Ah oui. Je crois qu'on aime mieux.
Parce que je rappelle, j'ai pas dit que vous êtes psychanalyste, hein, donc votre point de vue vient peut-être aussi du témoignage que vous avez entendu.
Et que je connais.
Oui, voilà.
Et que je connais.
Donc vous dites que c'est ce qu'il y a de pire. Pourquoi?
Parce que pour une ado, même si c'est pour se révolter, on a besoin de se révolter, si vous voulez, contre un mur. Hein, tandis que quand c'est contre du chewing-gum et que vous enfoncez comme ça et que votre mère, elle en rajoute et elle re-en rajoute...
Ça marche pas.
Ça marche pas.
Il faut
trop,
une autorité, quoi. Une autorité.
Pardon ?
Il faut une autorité.
Il faut peut-être savoir de temps en temps mettre un point d'arrêt. Mm-hmm. Peut-être un tout petit point d'arrêt, pas grand-chose, mais quand même dire non, ça tu fais, non, ça tu fais pas.
Oui, mais il y a des parents qui ont peur de se fâcher avec leur enfant en parlant comme ça.
Bah oui, mais est-ce que c'est un signe d'immaturité? Est-ce que c'est un signe de démagogie? Est-ce que c'est un signe d'angoisse? J'en sais rien. Mais il y a un moment où il faut pouvoir dire quand même peut-être que tu pourrais ne pas... passe ton bac d'abord. Vous rappelez la phrase quand même, passe ton bac d'abord.
Qui venait juste après, finis ton assiette. Il y a d'abord
finis ton assiette et après passe ton bac.
D'abord,
oui,
mais alors, Noémie nous disait tout à l'heure qu'elle avait vécu cette situation avec sa maman.
Non, pas vraiment.
Vous aussi, mais il ne faut pas le dire, c'est ça? Parce que vous me faites signe. Vous aussi, mais il ne faut pas le dire.
Moi, pas du tout. Hein.
C'est-à-dire, non, mais votre maman, vous étiez proche et vous prenait pour des copines.
Mais elle n'est pas du tout jouait mature.
Mais elle jouait pas la copine. Ce que j'ai par là, c'est
qu'elle déteste l'idée qu'on va la prendre pour la mère dans ce film. Donc je remets les choses bien à plat.
Non.
Elle n'est pas du tout comme le personnage de Mado dans la brave. Elle a été une super mère.
Vous dites qu'elle passait pour certains, pour plus jeune que vous à côté.
Ah oui,
pensait que vous étiez frangine physiquement. Est-ce qu'au niveau des fringues, au niveau du look, parce que le look joue à passer plus jeune.
Elle est elle s'habille très à la mode, elle est très très branchée et après moi aussi. Hein.
Moi j'ai passé ma jeunesse à entendre dire c'est votre mère, mais c'est pas possible, pas possible.
Et ça c'est énervant.
Hein? Ah bah c'est pas sympa hein. Mais ma mère était enchantée, elle a toujours été.
Ah oui, c'est ça, ça les enchante.
Non mais c'est la position de l'ado qui m'intéresse, c'est-à-dire de se dire...
C'est pas marrant d'entendre dire, surtout que moi j'ai été jusqu'à entendre qui est la mère, qui est la fille.
Bah moi tout le temps.
Alors ceci dit, avec mes enfants, moi, on m'a jamais fait le coup. J'aurais bien peut-être été...
Est-ce qu'il y a un côté, comment dirais-je, syndrome, je sais pas si ça s'appelle syndrome de Peter Pan, mais enfin...
Oui, c'est le syndrome de Peter Pan.
De refuser de grandir pour la mère, de continuer
mais
de s'habiller Jones, d'être en basket, jean et de la jouer, tout va bien.
Ben, ils se rendent même pas compte, hein. Le syndrome de Peter Pan, c'est qu'on se rend pas compte qu'on est Peter Pan. C'est-à-dire que ça bouge pas, c'est pareil, c'est toujours comme ça, c'est bien. Moi, je suis dans le coup, hein, je suis complètement dans le coup, et je ne me rends pas compte que, enfin, peut-être, j'aimerais bien être une adulte que les autres respectent ou qu'ils écoutent, mais non.
On parle de telle mère, telle fille, c'est évidemment le film de une fille et sa mère tombent enceintes en même temps.
Oui.
Évidemment, l'effet comique serait moins efficace avec tel père, tel fils, parce que ils auraient des enfants en même temps, ça ferait, il y aurait moins d'effet comique. Mais est-ce qu'il y a des pères immatures, ou est-ce que finalement un père qui est proche de son gamin, c'est un bon père, ils sont potes, ils vont ensemble au foot, et ils font ensemble des jeux vidéo, sais-je, ils partagent des passions de mecs.
C'est pas mal. Vous savez, c'est le fond qui manque le plus. Hein.
Non, pardon.
On entend tes commentaires sur moi.
C'est surtout le degré d'étonnement. Ah tiens, ça c'est pas une question
de la vie. Quel jour, quelle heure?
Ça
Ça part du cœur, en tout cas.
Non, en fait, si vous voulez, la question, c'est, il y a le père sympa, bon copain, etc. Mais c'est pas du tout obligatoire qu'il soit immature. Il est peut-être tout à fait mûr et peut-être qu'il joue avec ses enfants sur un mode tout à fait sain.
Non, mais c'est moins choquant, ce que je veux dire par là.
Ah ouais, c'est beaucoup moins choquant.
Alors pourquoi? C'est moins choquant quand c'est un mec qui joue les ados et quand c'est une maman qui joue l'ado. Là,
pourquoi
ça,
y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes, s'il vous plaît?
Alors, il y a le zizi et la zézette. Là, ça fait la différence.
Là, ça fait un blanc, mais...
Non, mais c'est quoi? C'est une différence de jugement. Ça ne se fait pas quand on est une mère d'être copine avec sa fille.
Ah ben, on peut tout à fait être copine avec sa fille, mais ça dépend si on est en concurrent. Ça dépend ce qu'on a dans la tête, si vous voulez. Ça dépend exactement de ce qu'on a dans la tête. Ça dépend des projets. Ça dépend de comment on se projette dans l'avenir. Comment on projette son enfant. Est-ce que, par exemple, une des caractéristiques de l'immaturité, c'est de ne pas avoir de projet pour ses enfants? Ben ça va, ils sont comme ça, ben il va bien se débrouiller.
C'est ça, de pas les voir même adultes, quoi.
Ouais, d'accord.
Mais ça, c'est, on s'en occupe pas. Est-ce que, on parlait du syndrome de Peter Pan, est-ce qu'il y a aussi un peu d'Oedipe dans tout ça, dans les rapports mère-fille?
D'Oedipe homosexuel, alors. Si vous voulez, la fille peut avoir la fascination envieuse de la mère, et quant à la mère, elle peut essayer de faire des processus d'annulation. Ma fille et moi, on a à peu près le même âge, c'est pareil, quoi, c'est pareil.
En fait, la fille, si elle n'a pas spécialement envie de ressembler à sa mère, c'est la mère qui a envie de ressembler à sa fille, quoi, qui régresse.
Voilà, et la fille devient psychanalyste, par exemple.
Ou réalisatrice. Vous avez également signé Ne bouge pas, tu vas tomber. C'est-à-dire, là, c'est Réussir malgré ses parents. Le sous-titre est d'une violence inouïe. Pourquoi? Il y a des parents qui freinent la réussite de l'enfant, c'est ça? Dont les parents immatures, peut-être?
Je pense qu'il y a une lutte sociale entre les parents et les enfants, et que quand les parents ont un certain niveau social, ils vivent la montée de leurs enfants, ils peuvent le vivre comme négatif pour eux, comme un dévalorisant, etc. Et inconsciemment mettre des obstacles pour pas que leurs enfants les écrasent.
Alors, les dépasse.
C'est
fou, parce qu'on considère toujours que les parents aspirent à ce que les enfants gravissent un échelon supplémentaire.
Et une plus belle vie que celle qu'on a eue. Ouais.
Ce livre, je l'ai écrit à cause de France Inter, parce que j'étais interviewé. Je commence d'ailleurs le livre comme ça. J'étais interviewé et la journaliste m'a dit tous les parents veulent que leurs enfants les dépassent. Ah, je dis ah non. Alors elle m'a dit, elle a cru que j'avais pas compris. Elle l'a repris. Alors je dis non, je ne crois pas, et j'ai attendu 15 ans et j'ai écrit ça.
Et ça va mieux?
Ça va mieux, c'est bien.
On verra quel livre elle va écrire en sortant de cette émission maintenant. Gisèle Larouche, Révidi, c'est chez Payot, donc oui. Parents immatures et enfants adultes. Et vous signez également, donc Ne bouge pas, tu vas tomber, réussir malgré ses parents, toujours chez Payot. Merci d'être venu apporter votre lumière de psychanalyste dans cette émission.
Merci
mille fois. Et vous avez ri en voyant le film, rassurez-moi.
Oui, très bien. Marrer,
voilà. C'est un peu fait pour aussi, pour réfléchir et pour se marrer. Telle mère, telle fille, ça sera le 29 mars. On voit bien Daniel Morin, en tout cas, que les parents immature, ça existe, et même si ça peut cacher un certain mal-être, c'est surtout pour les enfants de ses parents que c'est plus dur à
vivre. Stop ! Halt ! Ça suffit, basta, monsieur Guy. Je suis obligé de vous le dire objectivement, mon doux prince, ce matin, je n'ai aucune raison de vous féliciter, ni même de vous remercier, ni même de vous saluer, ni même de vous regarder. Et ce, à cause tout bonnement de la platitude centriste de vos propos. Vous êtes le François Bayrou du PAF.
Oh non !
Un porteur d'eau tiède. Nom de Dieu ! Oh, les parents immatures, c'est pas bien, gnagnagna. Oh, les pauvres enfants, gnagnagna. Mais merde, assumons, soyons des ados de 50 ans. Et c'est quand même pas un mec qui tous les jours vient en basket, que même les vrais Jones n'osent pas porter, et qui gagne sa vie en gueulant « Faites du bruit !» qui va me donner du sang de morale, quand même. D'ailleurs, j'ai eu Madame Guy au téléphone juste avant l'émission. Elle aimerait bien que vous rangiez votre skateboard et votre pot de Biactol qui traîne dans la salle de jeu. Voilà, le message est passé. Je ne vous jette pas la pierre, même si ça me ferait un bien fou. Moi-même, hier après-midi, je me baladais avec ma grande fille de 28 mois. Eh bien, j'ai vu qu'elle était très, très fière de moi. Quand je lui ai piqué son argent de poche pour m'acheter des bons becs, j'ai bien vu qu'elle kiffait. Quand je suis rentré chez le boucher, que j'ai dit « Wesh, gros, t'aurais pas de la deviant ?» Eh bien, je peux vous dire, je suis pas le seul à assumer d'être jeune, n'est-ce pas, Maréchal?
Affirmatif. Au départ, je me suis senti humilié. Mais aujourd'hui... C'est un vrai kiff de porter des couches.
Ah, vous voyez. Merci, Maréchal. Non, monsieur Guy, le retour en arrière, c'est trop hyper bien. Et si ça gêne les vrais jeunes, qu'ils aillent bosser à notre place pour nous payer notre shit et nos bières, ces petits cons. Voilà, je crois que ma démonstration est aussi limpide que de mauvaise foi.
Quelle horreur.
De votre côté, une fois encore, vous avez dit
n'importe quoi. Merci d'ailleurs. Et à bientôt.
Original. Lundi sur France Inter.
Le film donc sort le 29 mars, telle mère, telle fille, avec Juliette Binoche, Camille Cotin, Lambert Wilson, Catherine Jacob, Jean-Luc Bidault, le couple lunaire, dingue. Il y a quelques scènes... Pourquoi vous
c'est pas ça le couple.
Ouais. Oui, non.
Le gynécologue, c'est Jean-Luc Bidault. Oui, mais
c'est Catherine Jacob.
Avec Philippe Vieux, qui sont géniaux.
Catherine Jacob et Philippe Vieux. Mais ils sont... l'idée de la belle-mère, là, vous est venue comment? Me dites pas que c'est encore dans votre entourage que vous avez trouvé ça, non?
Bah, on trouve forcément tout dans son entourage, mais je trouvais ça drôle de mettre des parents hyper différents, en fait, parce que bon, bah, tout ce qui est clash et comédie, hein, de toute façon, on écrit toujours des drames et après on rajoute des vannes et c'est comme ça qu'on arrive parfois à faire rire les gens.
Ça fonctionne. Rassurez-vous, ça clash bien. On continue de parler de ce film jusqu'à midi et demi. Vous êtes bien sur Inter. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrouboudadi, Guillermo Gouiz, Pierre Albert, Albert Abdoum, Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Et nos invités sont Noémie Sabillot et Juliette Binoche. Avec ce film, Telle mère, telle fille, le 29 mars, qui raconte donc, comme vous le voyez sur l'affiche, l'histoire d'une fille et d'une mère qui tombent enceintes en même temps. L'une est même d'ailleurs, et c'est pas naïf, en robe, l'autre est en jean. On sait pas trop laquelle est la plus jeune des deux. En tout cas, dans sa tête, on peut le dire clairement, c'est la mère qui est la plus jeune des deux. Il y a évidemment cette histoire entre mère et fille. Il y a aussi l'histoire du couple avec Lambert, le couple que vous formez avec Lambert Wilson, avec des scènes mémorables dans les voitures, enfin il y a des...
Pas que dans la voiture.
Non, mais...
Enfin, en termes de mémoire, moi je retiendrai pas forcément la voiture.
tu as retenu sur le... pendant que l'orchestre jouait, c'est ce que tu veux dire?
C'est ça.
mais il y a aussi ça, il y a aussi, est-ce que...
comédie de remariage.
Oui, comment, oui, ou même, on est divorcé ou on est séparé, je sais même pas si c'est dit, s'ils sont vraiment divorcés ou juste séparés, ils sont clairement divorcés, mais ils gardent un contact de bons potes.
De coucou. Couple. Et ils ont fabriqué un coucou pour faire plaisir à leur fille, parce que l'autre côté de la famille, ils sont assez conventionnels, et donc pour préserver cette idée qu'ils sont parfaits et que tout va bien, eh bien de temps en temps, ils se réunissent à Noël et ils font comme s'ils étaient encore ensemble alors qu'ils ne le sont plus du tout.
La figuration,
sauf
que ça ne tient pas beaucoup et ça ne tient pas longtemps, et c'est ça qui est drôle.
Non, puis
aussi.
Un soir, bon, bah, ils se lâchent tous les deux, et puis bah, tout d'un coup, elle est enceinte, et alors l'histoire, tout d'un coup, il y a un retournement de situation.
Exactement. C'est là où on ne peut pas tout raconter non plus. Vous avez tourné le film dans l'ordre chronologique dans lequel c'est fait, ça, ou pas du tout.
Mais heureusement, elle n'était pas enceinte pour de vrai, donc ça nous a aidé à mettre des prothèses de la bonne taille. Non, pas du tout, non, jamais. C'est jamais le cas.
Si, ça, non, il y a quelques films.
Il y a des gens qui y arrivent. Des riches réalisateurs qui ont fait beaucoup de films très chers.
Ou si c'est un même lieu.
Un huis clos, oui.
Ouais,
quand c'est un huis clos.
Je pense que quand c'est un huis clos, ça a du sens, ou que tout se passe dans un dîner, ou des choses comme ça, tu peux demander.
Donc là, pour des raisons économiques, ça se fait en fonction des lieux de tournage.
Des lieux de tournage, etc.
Ça doit être un casse-tête incroyable de prévoir un tournage, quand j'y pense, là, de prévoir les séquences pour grouper.
Ça s'appelle un métier, j'ai envie.
Non, mais j'aimerais bien voir ça de près, voir comment on organise ça.
Très bien,
assistant
réa.
Assistant réa. Voilà, c'est ça.
Super. Non, mais c'est ça. Est-ce que sur le film, vous en avez eu, vous avez dû faire des choix sur des scènes coupées, parce qu'on imagine que, comme tout à l'heure, on parlait d'un échange de montée au filet, d'échange de tennis ou de ping-pong, que sais-je, il y a dû y avoir plus que ce que vous souhaitiez initialement, parce qu'une comédie doit mécaniquement toujours durer que une heure et demie et pas plus. Ouais.
Ça dépend. Franchement, moi, je fais des films très courts, alors j'ai un peu je coupe assez facilement.
Tête, déjà, ouais.
Je coupe assez facilement. Après, ça fait souvent, c'est vrai qu'on perd des scènes qui sont super, mais qui marchaient pas dans la durée. C'est hyper difficile. Tu te poses la question mille fois. Le film, il aurait pu durer 1h50, ouais.
Et comment oser dire à Binoche, c'est pas bon, on la refait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive déjà?
Elle le sait.
Moi, j'ai plutôt envie.
C'est jamais pas bon, mais elle a toujours envie d'en refaire. Carine, donc tout va bien.
Parce que c'est pas Juliette Binoche, c'est la Binoche. À un moment donné, on peut pas.
Ça a jamais été un problème. Non, mais c'est vrai que
c'est cool.
Hyper,
bah, c'est bon de
hyper
savoir,
étonnant,
en tout cas.
Mais on a tout de suite eu une relation assez sincère et franche. Moi, je suis pas vraiment dans la enfin voilà, on a pas été dans une espèce de, elle m'a pas jugée et j'ai pas été dans la déférence totale, j'avoue. Donc c'était assez clair. Et puis elle me regardait, elle me disait, bah là je sens qu'il faut en refaire une. Et puis moi j'étais trop contente, donc on en a refait 1000 parfois.
Les mecs ont pas spécialement le beau rôle dans le film, comme ça, si je peux me permettre.
Ça va quand même. Lambert, il a le beau rôle, je trouve, et Michael, ouais. Moi j'adore son rôle,
on y va.
C'est mon petit frère. Non mais franchement, c'est...
on y va, allons-y, sur le mec qui en fout pas une, mec... sur le...
Ouais, non mais quoi. C'est une génération de mecs qui est un peu comme ça, après il est, c'est
un ange.
Un peu
ange, geek, un peu, ouais.
Ouais, il est super cool, il est toujours de bonne gentil. Humeur, ouais, il est gentil. Hyper là, hyper gentil. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, il aurait pas été chassé des mammouths, je pense. Il aurait pas été hyper formé. C'est aussi une façon de remonter tout le monde. C'est-à-dire que, oui, le film est très féminin, féministe, tout ce qu'on veut, etc. Mais moi, je suis pas du tout... Je suis pour l'égalité, pas écraser du tout l'autre côté. Je trouve qu'il faut remonter tout le monde. Et que personne...
Non, moi, voilà, il est touchant, mais il m'a un peu énervé dans ce...
Il énerve les mecs. Voilà. Mais pourtant, il représente vraiment pour toutes les femmes qui regardent le film... Un mec qu'on connaît.
Et qu'on aime bien, en
et
plus.
Et qu'on adore. Moi, enfin, et pour le coup, Michael, le mec qui joue le rôle, qui est, dont c'est la première fois qu'il passe au cinéma et que j'adore et qui est vraiment devenu un de mes meilleurs potes, est un peu comme ça. Et c'est un mec super.
Il travaille vachement.
Il travaille. Ouais, il travaille vachement, mais ça c'est vrai.
Mais il débarrasse pas quand il a fini.
Mais, si, je pense mais que il est cool. Mais après, c'est un ange avec sa meuf. Ouais, c'est pas débarrassé parce que ça, bon, oui, c'est un petit truc en plus que je lui ai rajouté, mais c'est surtout que c'est des vrais gentils, cool, simples.
Mm-hmm. Mais il a envie de faire du cinéma.
Et les filles sont plus compliquées.
Telle mère, telle fille, le 29 mars, en tout cas, avec Juliette Binoche et Camille Cotin. Allez voir le match, justement, parce qu'on parlait de filet et de monter au filet des deux. Telle mère, telle fille, à vous de deviner qui est la mère, qui est la fille. Comme ça, Camille va réagir. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Oui. Cette semaine, côté sortie ciné, une fois encore, Walt Disney est à l'honneur avec La Belle et la Bête. Une fois encore, Disney... A tout salopé. C'est cucu, c'est concon, c'est trop sucré, évidemment, ça finit bien. Quand je pense que l'idée de départ était idéale pour faire un film jubilatoire qui finit mal. Walt Disney, Front National Entertainment et Fashion Movie présentent La Belle et la Bête. Il était une fois en douce France, dans une famille étrange, une jolie jeune fille qui était heureuse, elle avait plein d'amis, tout le monde l'appelait La Belle. Malheureusement, son père était un homme cruel et méchant. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde l'appelait la Bête. Un jour que la Belle se promenait dans le parc de Saint-Cloud, elle entendit des bruits bizarres qui l'angoissèrent.
Oh ! Oh ! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toi, la Bête, c'est toi, papa ?
Oui, c'est moi, la Belle, ma petite Marine.
Mais que fais-tu ?
Je tue des lutins, n'est-ce pas ?
Oh, mais pourquoi fais-tu une chose aussi horrible ?
Mais parce que ce sont des lutins clandestins, des lutins rastaquaires, sans papier, qui envahissent notre belle forêt de Saint-Cloud et qui viennent manger les champignons du lutin français. Oh, tiens, prends ça, lutin sarrasin !
Mais arrête ce carnage, tous les lutins du monde sont mes amis.
Mais ma parole, tu es crypto-communiste, ma fille, la Belle. Je vais te faire exorciser.
Quelques années plus tard, la Belle était toujours innocente et amie de tous. La Bête, de son côté, était de plus en plus méchant. Un soir à table, la discussion s'envenime.
Papa, la Bête, tu sais que notre voisin, le marquis de Philippot, avait mis des pièges à loups dans son parc pour attraper les trolls migrants ?
Oui, j'en ai entendu parler.
Il paraît qu'il les attrape par centaines, qu'il les jette dans le lac. C'est une honte, ces pièges à loups. Tu en penses quoi ?
Eh bien, ma chérie, la Belle Marine, ces pièges à loups, c'est un détail de l'histoire du parc du marquis de Philippot.
Les pièges, un détail ?
Oui, il me semble.
Et puis, petit à petit, les propos de la Bête se mirent à résonner de façon différente chez la Belle. Elle était de moins en moins amie avec toutes les créatures. La Belle en profitait un jour pour l'emmener dans la nature et pour la mettre une fois encore à l'épreuve.
Tu vois, la Belle Marine, là-bas, les moutons noirs et les moutons blancs ?
Oui.
Eh bien, tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de moutons noirs ?
Ah oui, tiens, c'est vrai.
Tu as remarqué que les moutons blancs sont de plus en plus maigres ?
Oh, ça, c'est vrai, ils sont plus maigres.
Eh bien, c'est parce que les vilains moutons noirs mangent leur herbe.
Ah bon ?
Absolument.
Oh, pauvre mouton blanc.
La Belle avait changé. Plus ça allait, plus elle pensait comme la Bête.
Dis-toi, l'oiseau, t'as tes papiers ? Non ? Hé, le sanglier, tous ces marcassins, c'est leur groupement familial ? Ah oui. Merde, à la fin, on va quand même pas se laisser envahir sans riposter quand même.
La Belle était devenue comme la Bête. Les deux s'entendaient comme larrons en foire à présent. Mais la Belle n'en avait pas fini avec sa transformation.
La bête !
Oui, la belle Marine.
J'en ai assez, tu quittes la maison.
Mais comment ça ? C'est ma maison.
Non, c'est la mienne à moi et mon fiancé, le marquis de Philippot.
Mais je croyais que tu ne l'aimais pas à cause de ces pièges à loups.
La bête, papa, tu vas tout de même pas t'arrêter à des détails. Allez, file, tu es banni.
Mais c'est hors de question. Ici, c'est chez moi. On est chez moi. On est chez moi. On est...
Et voilà, bon départ.
Qui l'eût cru ? La belle si gentille devenue si cruelle, mon Dieu. Quelle histoire.
Voilà, la belle a liquidé la bête. La bête n'est plus vraiment belle. Et aujourd'hui, la bête, c'est elle. Comme toujours, dans les belles histoires du Front National, tout est mal. Qui finit mal ? Bon week-end.
Oh, joli. Merci, Cléora. Merci à vous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Le même jour, vous êtes à l'affiche d'un autre film, Juliette Binoche ?
Oui.
Ouais, je sais bien que c'est pas les comédiennes qui décident de tout ça, les distributeurs et autres producteurs. Ça s'appelle Ghost in the Shell, un film de science-fiction de Rupert Sanders. Mais le gros avantage du cinéma, c'est qu'on peut aller voir, alors que des films sortent en même temps, on peut aller voir les deux à différents horaires ou à différents jours de la semaine.
C'est vraiment des films
de
très différents.
Ouais. Et c'est vrai que ce sont vos enfants qui vous ont poussé. Là, on parlait de rapport père-mère.
C'est-à-dire que je pars pendant 2 mois en Nouvelle-Zélande et comme j'ai tendance à pas mal partir quand même pour des histoires différentes, aussi bien des tournages que de la promotion, etc. Donc, je culpabilisais à l'idée de partir et de ne pas servir mes enfants, le petit déjeuner, le dîner, être là. Mais ils m'ont dit, mais vas-y maman,
ça va nous faire des vacances.
Faire la fête.
Et vous serez prochainement à l'affiche, vous en avez parlé tout à l'heure, du film de Claire Denis, Des lunettes noires, avec
Gérard Depardieu.
Mais vous pouvez pas...
Plein d'acteurs.
D'accord, ok, et plein d'acteurs. Mais il y a eu forcément un moment où vous êtes mis dans un coin pour parler tous les deux, non ?
Non, mais je l'avais vu au marché, 3 mois après ses déclarations.
Sa sortie peu flatteuse. Peu gentille, ouais.
Et je suis allée le voir, il avait un casque autour de la tête, parce qu'il avait
mis à moto.
À moto. Mmh. Et je l'ai entouré de mes bras charnus, et je lui ai dit, Gérard, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi t'es aussi méchant avec moi ? Il m'a dit, mais Juliette, t'en fais pas, je dis que des conneries, c'est pas grave. Non, mais... Et puis il m'a dit, mais ça m'énerve parce que tu travailles avec des pervers. Il a un blanc, et je lui dis, mais attends, pervers, de qui tu parles ? Et alors il me dit, mais Michael Haneke, il me dit, non, ruban blanc, c'est quand même bien. Et puis il me dit, Léos Carax, et puis bon, bref, on a un petit peu parlé comme ça, on s'est quittés. Donc moi j'ai l'impression d'avoir fait la paix avec lui et voilà, d'avoir retourné un peu la situation.
En tout cas, vous avez fait le premier pas déjà.
Ben oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait été aussi agressif. Mais en fait, je pense, avec un petit peu de distance, que comme je venais d'avoir le prix d'interprétation à Cannes, je pense qu'il y avait une jalousie tout à fait, qui venait d'énervement, de... Je ne sais pas, je pense que ça vient d'un truc très, très basique. Mais finalement, bon, il a été rassuré. Et quand on a joué ensemble, on était...
Ça s'est bien passé.
Mais ouais, on était sur des petits nuages.
On le verra quand, ce film de Claire Denis, Les lunettes noires ?
Alors, je ne sais pas exactement, parce qu'elle est en train de monter le film. On l'a fini fin février, mais c'est un scénario de Christine Angot. Et c'est sur l'amour et toutes les rencontres de cette femme qui rencontre tous ses amours passés, mais aussi on traverse avec elle les méandres, le labyrinthe amoureux de la vie. Et Gérard Depardieu joue le voyant parce que elle va voir un voyant à un moment donné et il est génial.
C'est génial.
Et vous avez déjà un scénario prêt, Noémie Saguillot, pour la suite, un film sur une femme encore ?
Ouais, j'ai.
Sur des femmes.
C'est pas moi qui l'ai écrit à la base et c'est rare qu'on m'appelle pour réaliser des films que je n'ai pas écrits. Mais oui, c'est un scénario qui a été écrit par Alix Giraudelin et Elodie Namer et qui est sur une femme d'aujourd'hui qui se perd un petit peu dans les choix qui nous sont offerts, car elles sont là. Entre travail, famille, qui est complètement
patrie,
voilà, qui est complètement perdu dans la possibilité d'avoir une grande réussite carriériste et de s'occuper de ses enfants, et qui se réveille en 1965 dans un monde où nous n'avions pas ce choix, où il est interdit de travailler sans l'accord de son mari et interdit d'avoir un compte en banque,
c'est
et
dingue,
très mal vu même d'aller prendre un café. Donc c'est une comédie qui parle de vraies choses, donc c'est vachement bien,
et de vrais soucis et surtout de ne pas oublier que ce sont des acquis et que malheureusement ils sont pas définitifs, il faut se battre pour les garder, ces acquis,
le bon vieux temps quoi.
C'est ça.
Non, ça permet de parler de ça à des générations qui sont pas, qui s'en rendent pas forcément compte raconte à travers la comédie, c'est toujours, je trouve, un bon moyen.
Absolument.
C'était mais mieux avant.
Non, rien du tout. Rien du tout. C'est... Et puis, on vous embrasserait Élodie Namer et Alexis Girodin. J'ai eu la chance de travailler avec elles.
Ah oui.
Ouais, sur un scénar et elles sont parfaites. Elles J'adore ces filles. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadoboudadi pour Noémie Saguillot et Juliette Binoche.
Juliette, Noémie, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux nous connaître. Et on commence par un son pour vous, Juliette.
En réalité, pour moi, tout homme est une sorte de roi qui est au centre de l'univers. L'univers lui appartient jusqu'au moment où, évidemment, tout cela s'écroule.
C'est Eugène Ionesco qui parle du roi Sommer. C'était en 63, une pièce qui a beaucoup compté, je crois, pour vous, Juliette.
Ah oui. Pour, j'ai une adoration pour Ionesco. Et je l'ai toujours eu. J'ai lu note et contre note et ses pièces de théâtre. Et même une fois, j'étais au lycée encore et j'avais été à Beaubourg faire la queue pour pouvoir rentrer parce qu'il est, il s'était mis sur scène avec d'autres auteurs et journalistes et avec sa femme. Et j'avais eu la chance de pouvoir rentrer et de le voir sur scène en train de lire son texte. C'était extraordinaire.
Et vous avez monté cette pièce, c'était au lycée.
Donc au lycée,
c'est votre première
ouais.
expérience de mise en scène, je crois. Hein.
Ouais.
C'était aussi une façon, vous expliquiez que le théâtre, c'était cette bouée de sauvetage, c'était cette façon d'échapper au système scolaire. Vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure quand on en a parlé. Et moi, je me demande à quand Juliette Binoche, metteur en scène.
Quand j'aurai un peu de temps, quand les enfants se seront envolés du nid et que je pourrai enfin reprendre ma place.
Mais envies de mise en scène.
Oui, mais bon, à la fois, je suis tellement heureuse de rencontrer des univers différents, d'avoir la joie de découvrir des rôles encore que jamais j'aurais pu imaginer faire.
De prendre des risques aussi en allant faire des premiers films de premiers réalisateurs. Enfin, vous faites des choix.
Oui,
qui sont...
c'est pour moi, c'est un tel privilège que je ne suis pas du tout en manque et il n'y a pas de frustration.
Oui.
Et puis aussi, quand on est dans un film, il y a une part où on participe à la mise en scène. Mm-hmm. Parce qu'on est vraiment à l'intérieur, on incarne, on est au centre de là où ça se passe. Donc, c'est un lieu d'observation génial de voir comment un metteur en scène aborde les choses, quelle distance il met entre lui et les acteurs, entre lui et l'équipe technique, comment on avance dans un plan, comment si c'est préparé ou si c'est improvisé sur le moment. Enfin, c'est un tel lieu d'observation passionnant que c'est vrai que j'en ai pas de frustration. Mais quand il faudra à un moment donné peut-être mettre en scène, en tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que la grosse différence, c'est le lieu de préparation, c'est le temps de préparation qu'un metteur en scène se donne avant de tourner. Et ça, ça fait toute la différence.
Et est-ce que vous n'êtes pas finalement en préparation depuis toutes ces années, en étant en première loge, à ce premier poste d'observation dont vous parlez ?
Certainement, mais à la fois, je trouve que risquer de faire un film, c'est vraiment avoir un sujet qui vous appartient, qui est tellement nécessaire. Que vous pouvez pas faire autrement que de le mettre en scène. Mmh. Et là se pose ma question. Est-ce que moi j'ai ce désir vraiment d'un sujet que je pourrais pas donner à quelqu'un d'autre, qui serait pas possible. Je peux le vivre en tant qu'acteur parce que forcément je me raccorde à un sujet où le thème est absolument primordial pour ma vie parce que je le raccroche à des choses intimes et vraies. Dans la mise en scène, il faudra un temps peut-être où je me poserai la question, ou c'est aussi bien de dire qu'on n'est pas capable de faire une chose et de l'accepter comme ça. Ça fait partie aussi du dépassement de soi dont on parlait.
Ouais, mais c'est le moteur.
D'accepter que on n'est pas forcément fait pour une idée qu'on s'est faite. Donc on verra bien. Voilà, c'est la réponse.
C'est très bien. On poursuit avec vous, Noémie.
Je voulais te poser une question parce que tu es docteur, tu vois.
Oui.
Il arrive que je ne m'aime plus parfois. Est-ce que tu peux me soigner ?
Bah oui, moi je suis dentiste.
C'est moi, c'est Georgia.
Ici c'est Barry Egan.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Barry ?
J'ai ma propre affaire. On a mis au point une poignée incassable, je vais vous faire une démonstration.
C'est un extrait de la bande-annonce, alors c'est en français, pardon, mais de Punch Drink Love, avec Adam Sandler, que j'adore, un film de Paul Thomas Anderson, et je crois que...
C'est mon réalisateur préféré.
C'est votre réalisateur fétiche. Alors, on lui doit aussi à Paul Thomas Anderson, pour le replacer, Magnolia, There Will Be Blood, Boogie Nights, entre autres. Y a beaucoup de références dans vos interviews, Noémie, à des réalisateurs étrangers.
Ouais. C'est pas bien.
Mais bah non, c'est pas grave. Mais faut pas.
Citoyenne du monde, ça va.
Ah ouais, non, il y a pas du tout de jugement
de
valeur.
J'ai beaucoup habité à l'étranger aussi. Ouais. Donc
non, mais vous justifiez pas.
Voyage pas tant que ça. Mais c'est vrai que.
Non, vous parlez. Vous parlez de Wes Anderson, des frères Farrelly, de Noah Baumbach. Qu'est-ce que ce cinéma-là vous apporte à vous dans votre rapport au cinéma ? C'est pas du tout une critique de ne pas citer un réalisateur français.
Non, mais c'est pas ça. En fait, c'est qu'ils ont une façon de faire de la comédie. Ils ont le droit de faire de la comédie intelligente qu'on a de plus en plus de mal à faire en France grâce au cinéma, le cinéma indépendant américain. Par exemple, le festival de Deauville, je sais pas si vous y allez, mais c'est mon festival préféré parce qu'on voit des films qu'on ne voit jamais, qui ont une liberté de ton absolument génial. C'est-à-dire
qu'ils
ont.
Vous avez pas eu cette liberté, vous, en faisant votre film?
C'est très difficile de monter un film en France. J'en dirai pas plus, mais c'est vrai que c'est très difficile de monter un film en France et que du coup, on nous bloque beaucoup sur la petite folie qu'on pourrait avoir.
D'accord.
Quelqu'un a son réveil qui sonne.
Ouais.
C'est le temps qu'il se réveille. Ouais.
Et donc du coup, c'est Noah Baumbach, The Squid and the Whale, tous ces films de Paul Thomas Anderson. Il y a énormément d'humour et aussi énormément d'intelligence. Et j'adore ce truc. Et j'aspire à ça. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis petite, j'ai 35 ans, je fais ce que je peux. Mais j'aspire à rajouter de plus en plus de finesse, en fait, dans de la comédie qui va aller un peu plus loin, quoi.
Et je finis par, un cadeau pour chacune d'entre vous. Pour vous, Noémie, je vous offre Le droit de choisir, ça tombe bien, de René Friedman. C'est l'un des fondateurs, alors c'est aux éditions Seuil, pardon, c'est l'un des fondateurs de Médecins Sans Frontières, pardon. Et en fait, il a écrit un manifeste en disant clairement, il est un des pionniers de la médecine procréative, qu'il a aidé des couples ou des personnes célibataires à pouvoir bénéficier de la PMA en France, parce que c'est pas encore quelque chose de très très simple, la progression médicale assistée.
Et pour Juliette ?
Et pour Juliette, parce que Juliette me fait du bien, je lui offre ces livres qui nous font du bien, de Christina Pelé-Douel, chez Marabout. C'est une invitation à la bibliothérapie. En fait, il y a une liste de livres avec des petits paragraphes explicatifs selon l'émotion que vous recherchez. Si vous voulez replonger dans le sentiment amoureux, il y a quelques livres qui vous sont recommandés avec un petit pitch et une petite liste indicative.
Se mettre en condition en fonction de l'humeur que l'on souhaite.
Parce que le livre te soigne, le livre t'accompagne. Donc selon le moment de ta vie, dans quoi tu as envie de t'enfermer ou de te faire embrasser, il y a une petite liste suggestive.
Merci beaucoup.
Merci Leïla. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé, évidemment, pour Mademoiselle Juliette Binoche, star internationale, icône absolue, qui s'est retrouvée en ce 24 mars à devoir répondre à cette question. Jouer les déglingos, ça doit être un kiff. Maggie, mais pas sur Skyrock, bordel. Désolé pour la carrière d'imitateur de Nagui qui a pris fin ce matin, c'est officiel, avec cette imitation plutôt gênante.
Oui, il faut voir comment on peut le faire.
Voilà, enfin, selon Nagui, c'était
quoi, M.
C'est aucun respect pour rien, l'égyptien.
Entre égyptiens, ça va, on peut. Entre égyptiens, on peut. Merci Juliette Binoche. Merci Noémie Saguillot. Ça sort le 29 mars prochain. Oui, absolument. Telle mère, telle fille. À suivre, le carnet de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter et bon week-end à lundi.